Soyez les bienvenus dans ce lieu cet après-midi. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver, d'avoir pu chanter quelques cantiques, d'avoir pu entendre ce que le Seigneur fait dans les vies. Et maintenant, nous allons lire la parole et nous allons commencer en lisant un verset dans le psaume 142, le verset 8. Nous lisons « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de sa prison. » Le psaume 143, vous n'avez qu'un coup d'œil plus bas à faire, le verset 3 nous dit « L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. » Et nous allons maintenant, dans le livre des Actes, faire une lecture, un texte que nous connaissons bien dans Actes chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 26. « Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. C'est un texte qu'on connaît bien. Peut-être que vous ne le connaissez pas d'une manière particulière. En tout cas, c'est un texte que l'on aime lire. C'est un texte que l'on aime prendre lorsque nous avons nos groupes de préparation baptême pour parler des conditions, de ce qu'il faut pour s'engager dans les eaux du baptême. Et au travers de ce texte, de ce que nous avons lu auparavant, il y a quand même quelques réalités, un cheminement, si je puis dire. Et comme l'a soulevé Michael, lorsque Nathanaël est venu raconter son témoignage, on voit toujours qu'il y a un cheminement, qu'il y a des étapes, qu'il y a une certaine manière d'être, de faire les choses avant peut-être de capituler et de donner son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'il est question d'un homme, qui avait une bonne place, on pourrait le dire comme ça, qui avait un bon travail, qui avait un avenir propice, qui, si tout se passait bien, ne risquait pas d'aller au chômage. Il pouvait voir sa carrière évoluer pour prendre sa retraite. Pour lui, ce n'était pas ce souci-là. Le souci du travail, ce n'était pas pour lui. Toujours est-il que la Bible nous dit qu'il est allé à Jérusalem. Mais la Bible va rajouter ce détail, et c'est un détail qui est parlant, parce que lorsque un ange va parler à Philippe pour aller rencontrer cet eunuque. Il va dire, voilà, tu dois aller sur ce chemin, mais ce chemin-là, c'est ce chemin qui est désert. C'est un chemin désert. Et c'est le chemin sur lequel l'eunuque était présent. Et quand on réfléchit, quand on médite, quand on regarde la parole de Dieu, on ne peut pas s'empêcher d'y voir un parallèle entre peut-être le cœur de cet eunuque éthiopien, cette personne qui avait tout, mais quelque part, était peut-être dans un désert spirituel. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme, Seigneur. Oui, on peut être en prison. Oui, on peut être sur un désert, dans un désert. On peut être chacun, pour notre part, sur un chemin différent. On peut être foulé à terre par l'ennemi. On peut vivre ces choses-là. Toujours est-il, et c'est ce qui est rassurant, c'est que Dieu, lui, sait exactement où nous trouver, quand nous trouver, où aller pour être à notre rencontre, pour établir un dialogue, une relation. Et c'est cela, le message de l'Évangile. Et au travers des expériences que nous faisons, ces expériences servent à ancrer notre foi dans ce Dieu véritable et vrai. Nathanaël vous a dit qu'il avait prié pour son examen. J'ai vu sa feuille, il a noté. En fait, sur sa feuille, il a dit que c'était le plus nul de sa classe. C'est ça. Et à l'écrit, il a eu 5 sur 20. Et vous savez qu'on peut faire des expériences avec le Seigneur. Et la délicatesse du Seigneur, c'est de ne pas mettre de côté, de ne pas nous rejeter en nous disant « Ah, mais les études, écoute, c'est pas pour... je ne vais pas répondre à ça, j'ai d'autres choses à faire, ceci ou cela. » Non, le Seigneur a toujours cette délicatesse. Et il sait ce dont nous avons besoin pour que nous puissions avoir la foi, être amenés par lui. Et il a prié, il n'a pas dit, il a eu 20 sur 20 à l'oral. Et il dit, c'est étonnant parce que j'étais le plus nul de ma classe. Mais vous savez, j'ai un frère chrétien qui est sur Nice, et il raconte ce témoignage que quand il était étudiant, à un moment donné, il était là en examen, et il y avait eu tout un tas de choses qui s'étaient passées dans sa vie. Et il dit qu'il a prié parce qu'en voyant l'énoncé, il était pris de panique, désespéré. Et il dira, ça va plaire aux jeunes, c'est comme si le Seigneur me montrait devant mes yeux la solution à tous les problèmes. Et il explique comme ça, il m'a dit, c'est comme si j'avais eu juste à recopier sur ma feuille. Et le Seigneur, au travers de ses expériences, c'est pas parce qu'il fait ça que nous sommes sauvés. Et c'est ce qu'a compris Nathanaël. C'est pas parce que nous sommes bénis, nous pouvons vivre des choses avec le Seigneur que nous sommes sauvés. Mais au travers de ces expériences, le Seigneur veut toujours nous amener à le rencontrer. L'eunuque éthiopien avait l'habitude, peut-être on ne sait pas combien de fois il est allé à Jérusalem, combien de fois il a voulu adorer, combien de fois il était pris dans cet état d'esprit, c'est là-bas qu'est la ville de Dieu, si je veux réussir dans mon travail, peut-être qu'il faut que chaque année je fasse un pèlerinage à Jérusalem, peut-être que tous les 2 ans, peut-être que pour que je sois béni, il faut que je vienne tant de fois à l'église, 3 fois dans l'année, 4 fois, tous les mois, on ne sait pas, il y a tellement de personnes qui réfléchissent comme cela. Mais son cœur, parce que c'est cela l'important, son cœur, qu'en était-il? Est-ce qu'il avait rencontré le Sauveur? Je ne pense pas. Puisqu'il va s'interroger sur un passage de l'Écriture tellement marquant. Est-ce qu'il avait compris? Non. Mais Dieu l'a vu. Et on peut être sur un chemin désertique, on peut prendre une direction dans notre vie. Si on est sincère, Dieu sait comment venir à notre rencontre. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Et son désir, et ça, soyez-en certains, son désir, c'est que nous puissions arriver à le recevoir comme sauveur et comme Seigneur d'une manière personnelle. Philippe va donc venir à sa rencontre. C'était le moment pour lui. Il y a des rendez-vous, et on le sait. Il y a eu un rendez-vous dans la vie de Nathanaël, où il a prié, où il a eu conscience de ce que la vie chrétienne c'était, cette conscience de dire, mais si je veux te suivre, c'est toute ma vie, sois le Seigneur de ma vie. Il y a des rendez-vous que Dieu nous donne, où il veut s'entretenir avec nous, où il veut nous parler, il veut nous expliquer. Et cette même phrase que Philippe va dire à cet eunuque éthiopien, il peut nous la dire encore cet après-midi. Mais est-ce que tu comprends? Comprends-tu ce que tu lis? On pourrait dire, mais est-ce que tu arrives à comprendre ce que Dieu veut pour toi dans ta vie? On pourrait le redire encore d'une manière différente. Est-ce que tu sais que Dieu a des projets? Est-ce que tu sais que pour Jésus-Christ, tu n'es pas lointain, tu n'es pas perdu, isolé dans ce monde, mais pour Jésus-Christ, tu as de la valeur? Comprends-tu ce que tu lis? Et Philippe, au travers du texte, va commencer à expliquer le message, la bonne nouvelle. Et on va voir rapidement cette bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle, et je l'ai déjà partagée, et c'est quelque chose qui est là sur mon cœur, cette bonne nouvelle n'a jamais changé. C'est toujours la même bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que Philippe a pu expliquer à cet eunuque éthiopien, c'est cette même bonne nouvelle que Jésus-Christ veut que vous puissiez entendre cet après-midi, cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous offrir le pardon de nos péchés. Ésaïe, je le lis pour vous, 41, verset 27, nous dit « C'est moi, le premier, qui ai dit à Sion, les voici, et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. » J'envoie, parce que dans le cœur de Dieu, il y a toujours ce désir que nous puissions recevoir une bonne nouvelle. Je pense que si j'avais une enveloppe ou un cadeau, un gros cadeau, et que je vous dis, voilà, ouvrez-le, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est bien pour vous, vous n'allez pas attendre pour l'ouvrir. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils reçoivent des courriers, je sais qu'avant ça se faisait, je ne sais plus si ça se fait aujourd'hui, où il y avait marqué sur le courrier, vous avez gagné, vous êtes l'heureux gagnant du jeu, vous venez de gagner 1 million d'euros. Il y a des personnes qui se sont laissées prendre à cela. Il y a des personnes qui, pour le monde, ont risqué tellement de choses. Et Dieu nous rappelle que lui, il a une bonne nouvelle, mais pas une bonne nouvelle qui veut nous tromper, pas une bonne nouvelle qui va nous amener dans le désespoir. Une bonne nouvelle, si nous l'acceptons, parce que nous sommes libres, une bonne nouvelle qui va nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Ce que j'aimerais dire, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la restauration de notre âme. Il y a ce verset, ce texte que l'on connaît parfaitement, mais que je vais lire pour vous, c'est dans Luc 4, au verset 16. C'est un passage qui est tiré de l'Ancien Testament. On remit le livre du prophète Ésaïe à Jésus-Christ. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » Et c'est Jésus-Christ qui, lorsqu'il va lire ce texte, va ensuite rouler ce livre et en disant « Mais aujourd'hui, je vous le dis, c'est accompli. Aujourd'hui, c'est accompli. » La bonne nouvelle, c'est la restauration de notre âme. La bonne nouvelle, c'est de comprendre que si nous sommes dans une prison, si nous sommes sur un chemin désertique, si l'ennemi a foulé à terre notre vie, notre âme, Jésus, lui, est venu pour reconstruire, pour guérir, pour retrouver ce qui était perdu, pour chercher peut-être une brebis, quelqu'un qui avait peut-être une patte cassée. Et on a tous eu, à un moment donné ou à un autre, une patte cassée. On s'est tous blessés. Le péché nous a blessés, la vie nous a blessés. Et on peut être là, assis cet après-midi sur cette chaise, en disant « Oui, mais ça c'est seulement pour les autres. » Ou on peut dire « Mais quand même, est-ce que cette bonne nouvelle, elle ne serait pas pour moi aussi ? Est-ce que moi aussi, je n'ai pas le droit de sortir de mes prisons affectives ? On peut chacun mettre un nom à sa propre prison. Est-ce que moi aussi, je peux expérimenter la délivrance? Et oui, parce que c'est cela la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que Philippe est venu annoncer à cet eunuque, qui pourtant avait fait tant de fois ce chemin, qui pourtant avait déjà lu d'autres parties de la parole de Dieu, peut-être sans jamais le comprendre, peut-être qu'il lisait en disant « Mais voilà, on m'a appris qu'il faut que je lise au moins un chapitre par jour pour avoir la bénédiction de Dieu. » Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas ça qui apporte la bénédiction de Dieu. C'est un cœur sincère, c'est un cœur contrit, c'est un cœur humilié, mais qui reçoit le pardon et le sacrifice de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est aussi l'accomplissement des promesses de Dieu et le pardon de nos péchés. Acte 13 nous dit, je le lis pour vous, « Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Et le verset 38 de ce chapitre 13 nous dit, « Sachez donc, homme, frère, que c'est par lui que le pardon, donc par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » La bonne nouvelle, c'est le pardon de nos péchés. La bonne nouvelle, c'est cette nouvelle qui pour nous est bonne, mais qui a coûté à Jésus-Christ, c'est de comprendre et de savoir qu'il fallait qu'un innocent puisse payer, mourir à notre place, qu'il fallait que Dieu juge le péché. Il ne peut pas en être autrement, parce que Dieu est un Dieu saint. Samedi soir, avec la jeunesse, on débattait sur quelques questions, sur notamment les batailles dans l'Ancien Testament, ce qui se produisait. Et alors qu'on était tous ensemble, on a partagé, on est arrivé à cette conclusion ensemble, bien sûr, que l'amour de Dieu n'a jamais changé. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le même Dieu, le même amour. Dans l'Écriture, il est écrit que Dieu a attendu une semaine avant que la porte de l'arche que Noé avait construite fût fermée. Dieu donne toujours la possibilité aux hommes de venir le rencontrer, d'être sauvés. Beaucoup de personnes se moquaient de Noé, beaucoup de personnes peut-être ne prêtaient pas attention. Mais laissez-moi vous dire que si une personne avait été interpellée, si une personne s'était dit à ce moment précis, « Mais oui, peut-être qu'il a raison, je vais rentrer dans l'arche », Dieu lui aurait permis de rentrer dans l'arche. La question qu'il faut se poser cet après-midi, c'est est-ce que nous sommes dans l'arche d'une manière spirituelle ou en dehors de l'arche? Est-ce que nos péchés ont été pardonnés? Est-ce que nous avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ d'une manière personnelle? Est-ce que nous avons compris que pour que nous puissions vivre, il fallait que le Fils de Dieu, qui s'est dépouillé volontairement, accepte d'être crucifié, comme nous l'avons chanté, de la croix, la grâce coule. Oui, aujourd'hui, cette grâce est encore disponible. Ne prenons pas le risque de recopier, de faire comme les hommes du temps de Noé ont fait, de se moquer. Peut-être il y en a ici des personnes qui se moquent des chrétiens. Peut-être il y en a, peut-être vous. Moi, je me suis moqué des chrétiens. Je me moquais de ma mère, je me moquais de ma sœur, je disais, mais c'est pas pour moi. Mais béni soit le Seigneur, que sa grâce a su me toucher, me ramener, m'emmener près de lui. Peut-être que vous êtes tenté, peut-être que vous vous êtes moqué, mais laissez-moi vous dire qu'il y arrivera un jour, et c'est la troisième chose que je voulais partager avec vous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne la solution pour le jour de son jugement. Et c'est Acte 17, le verset 30, qui nous le dit. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. » Acte 17, verset 30. « Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, pas selon notre justice, mais selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, selon qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, c'est Jésus-Christ. Il va y arriver un moment où nous serons confrontés à Dieu, à notre Créateur. Il y arrivera un moment donné où nous serons confrontés à la sainteté de Dieu, à la pureté de Dieu, et pour nous, la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut trouver tous les hommes qui sont dans des chemins désertiques, dans des prisons, pour qu'ils puissent être libérés. Dieu veut trouver tous les hommes qui sont en dehors de l'arche, pour qu'ils puissent monter dans l'arche et être ainsi sauvés. La repentance, c'est la seule réponse. C'est la seule chose que Dieu nous demande. C'est de comprendre qu'on est pécheur et qu'on a besoin de demander pardon pour nos péchés. Il y a ce texte, je vais essayer de le retrouver, voilà, dans ce que nous avons lu. Vous savez, c'est tellement important. L'eunuque éthiopien va dire, mais comment est-ce que je pourrais comprendre ce que je lis si personne, si quelqu'un ne me guide, si personne ne me guide. On a chanté Jésus, né de la poussière, il est le chemin, la vérité, la vie. C'est mis dans un autre sens, je pense, pour le cantique. Mais il y a, vous savez, un seul chemin. Il y a un seul guide pour trouver la réponse à nos questions. Il y a un seul guide pour que nous puissions avoir cette certitude que nous sommes sauvés. Jésus-Christ s'est fait notre guide, se propose du moins, je devrais le dire comme ça, se propose pour être notre guide. Jésus se propose d'être ton guide, celui qui va conduire ta vie, comme l'a dit Nathanaël. Il a compris que Jésus devait être son sauveur, mais le Seigneur de sa vie, son guide. Et comme il nous l'a rappelé très justement, ce n'est pas pesant, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas quelque chose d'atroce de suivre les commandements du Seigneur. C'est une bénédiction et c'est une grâce. Zacharie nous rappelle cette réalité. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Il y a cette source qui est ouverte. Cette source où nous pouvons aller nous désaltérer, où nous pouvons venir pour nous laver au sens spirituel, pour que nous puissions recevoir le pardon. Mais cette source, un jour, va être coupée, arrêtée, parce que Dieu est juste et ce qu'il fait est parfait. L'eunuque éthiopien a compris, il ne lui a pas fallu 10 années d'école biblique pour comprendre ce qu'il devait faire. Il a compris que lui, il fallait qu'il obéisse en passant par les eaux du baptême. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi, qu'il est ressuscité. Je crois que par son sacrifice, j'ai le pardon de mes péchés. C'est cela qui a bouleversé sa vie. Et au travers de ce texte, au travers de ce qu'il a fait, nous voyons qu'il a manifesté son obéissance et son engagement. Il est parti tout joyeux. On pourrait dire qu'il est parti léger, pardonné. Cet après-midi, est-ce que nous allons repartir léger, joyeux ? Est-ce que nous allons repartir le cœur rempli de reconnaissance, rempli de l'amour de Jésus-Christ, ou nous allons repartir avec nos mêmes problèmes, nos mêmes soucis ? Nous allons repartir en étant toujours dans ce chemin désertique ? Nous allons repartir en étant toujours dans cette prison ? C'est une possibilité, en tout cas Jésus-Christ ne force personne. Mais le mot du Seigneur, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, tu peux l'accepter. Tu peux voir ta vie bouleversée. Nous allons prier un instant. Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole, pour cette bonne nouvelle. Seigneur, c'est toi qui a tellement aimé le monde, qui a voulu donner ton Fils, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Seigneur, nous croyons que tu es venu Jésus-Christ, pour nous restaurer, pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, pour nous sortir de nos prisons, pour que là où l'ennemi nous avait complètement foulés, piétinés, nous puissions en toi être reconstruits, bâtis, construire une vie. Merci Jésus-Christ pour ce que tu veux nous offrir. Merci pour le pardon de nos péchés, pour cette vie qui émane de ta personne. Merci mon Dieu parce que oui, il y a encore un fleuve aujourd'hui, un fleuve où nous pouvons plonger dedans pour recevoir le pardon, pour recevoir cette vie, pour être lavé, purifié. Merci parce que oui, c'est encore ouvert. Merci mon Dieu parce que c'est là ton désir. Oui, tu veux venir chercher quelqu'un qui est dans le désert, dans sa prison. Tu ne nous dois rien et pourtant tu nous as tout donné. Seigneur, nous voulons te bénir pour cela, te remercier, t'adorer, Seigneur. Nous te prions en ces instants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.